radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux. Découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application.
Était une héroïne. Il y a très peu de personnes comme ça dans le métier du cinéma qui passent, qui nous apprennent beaucoup de choses.
Avant Margot, c'était les assistants qui faisaient le casting. Donc Margot, quand elle est arrivée, elle a inventé la fonction et le titre en France.
Bien sûr que je suis un peu l'héritier, mais surtout, c'est quand même la première. Elle devrait avoir le studio de Boulogne-Billancourt, devrait s'appeler le studio Margot Capelier. C'est elle qui a inventé ce métier. Je suis désolé.
J'ai l'impression qu'elle savait ce que c'était, la difficulté d'être acteur.
Et voilà, on savait que c'était le passeport qui vous ouvrait la possibilité de rencontrer les metteurs en scène qu'on rêvait de rencontrer.
Elle était... toujours à fond, comme une petite fille à dire « Ah mais ça, je suis pas sûre qu'on va y arriver ». Donc c'était assez drôle de voir une femme d'une telle expérience flipper encore comme une débutante.
Margot Capelier, la reine du casting.
Je n'ai su quelques trucs sur la vie de ma mère que très tard, car ma mère ne voulait absolument pas parler du passé.
Claude Capelier.
Margot Capelier est née en 1910, Marguerite Leibovitch, dans une famille de juifs russes immigrés qui est arrivée plusieurs années avant en France. Le père était devenu peintre en lettres, ce qui va obliger plus tard... Margot à être un peu son assistante parce que il avait quelques problèmes avec l'orthographe. Et comme il peignait des enseignes, de temps en temps, il fallait rectifier le tir.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il était russe, mais il parlait français sans aucun accent, aucun. Sauf quand il écrivait, il faisait des fautes d'orthographe.
Margot Capelier.
Il était très violent, très nerveux. Je crois aussi qu'il s'était marié par erreur avec ma mère. Alors c'était un peu difficile.
Elle a une sœur aînée qui s'appelait Jeannette, et puis un frère cadet, Raymond. Margot adorait son frère, ils étaient très très proches, et chacun était le repère principal pour l'autre. Margot voulait être actrice, en attendant, elle n'était pas actrice du tout, et elle faisait des petits boulots, mais elle voulait être actrice. Et Raymond était en liaison avec des gens du Parti communiste. Il y avait des groupes artistiques, des groupes d'agit-prop. Et c'est comme ça qu'elle a pris contact avec le groupe Octobre.
Ce qu'on appelait à l'époque le groupe Octobre, qui était un théâtre d'agit-prop. Ça veut dire un théâtre révolutionnaire, mais sans appartenance au Parti communiste, naturellement. Il y avait beaucoup de gens de gauche et même des gens du parti qui disaient « Camarade, je suis pas d'accord, enfin, comme d'habitude ». Mais c'était tout à fait intéressant parce qu'il y avait des gens exceptionnels.
On avait entendu parler aussi du mouvement qui existait en Allemagne avec Piscator.
Raymond Bussière.
Et qui était l'agitation de propagande. Ouais. Et avec 5 ou 6 copains, nous avons monté un groupe. Et je te dis, pour qu'il n'y ait pas de courance, pour qu'on sache exactement à quoi ça correspondait, on l'appelait le groupe Octobre. Je ne sais pas exactement qui a eu l'idée de l'appeler le groupe Octobre. Mais enfin, voilà.
Donc, elle a été au groupe Octobre. Ils se sont entendus tout de suite avec tout le monde. Et comme c'était Prévert qui faisait les textes du groupe Octobre, elle a connu Prévert comme ça, qui, je crois, ils se sont aimés beaucoup tout de suite.
Hein. Je crois que c'est 34 ou 30... Non, vraiment, ça, c'est pas parce que je veux dire que j'ai pas de mémoire. C'est ridicule. Mais je ne me rappelle pas vraiment. Je crois que c'est 34... Vous savez, j'étais avec mon frère un spectacle à la Mutualité où j'ai entendu des chœurs parler. Ce sont des poèmes que les gens disent ensemble. J'ai envoyé une lettre et j'ai dit que je voulais faire partie du groupe. Alors on m'a convoqué rue Mathurin Moreau. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait le groupe Mars et le groupe Octobre. Enfin, moi, je voulais le groupe Octobre. C'était d'une timidité que vous n'imaginez pas. Je suis toujours d'ailleurs. Et tout à coup, il y a un monsieur qui est venu, m'a dit, c'est toi qui veux faire partie du groupe Octobre? J'ai dit oui. On m'a amené dans une pièce où il y avait les Prévert. Ça, je m'en souviens, comme si c'était hier. Mais je ne savais pas qui c'était. Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, Jacques savait vraiment qui il était. Il savait qu'il avait du talent, mais enfin... Ils m'ont dit, tu veux faire du théâtre? J'ai dit oui.
Et quand elle a rencontré Prévert, pour elle, elle a répété ça 100 fois, et je crois que c'était vraiment vrai, elle est née une deuxième fois, et c'était la bonne. Et je crois qu'en plus, une des choses, enfin ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans les groupes où elle était un centre d'attraction, parce qu'elle était tellement inventive dans son humour, et parce qu'elle comprenait les gens et les choses avec une rapidité extraordinaire, avec une capacité de le transformer en une sorte de fiction partagée avec les autres, improvisée. Et que après tout, ça pouvait être aussi une raison sociale. C'était un métier. En tout cas, c'était la base d'une façon de pratiquer son métier qui pouvait avoir une force formidable. Et Prévert va l'aider aussi à faire des choses aussi dans le cinéma. Est-ce qu'on parle de ça maintenant?
J'étais au groupe Octobre. Jacques nous est tourné. Alors j'ai tourné une blanchisseuse dans Le Crime de Monsieur Lange, par exemple. Il avait écrit le scénario et il y avait la moitié du groupe. Et Renoir, qui était un monsieur absolument extraordinaire, il disait « c'est formidable, c'est parfait, c'est bien, mais on recommence ». Moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Alors, on recommençait.
Au jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis.
J'ai travaillé dans le drame. Avec Carnet, ça a été la fin de ma carrière au cinéma parce que qu'est-ce que j'ai pris? Je devais pas être très adroite. Mais alors Carnet n'était pas très patient. Lui il disait pas on recommence, il disait les comptes celle-là ou à peu près. Je savais pas ce que c'était qu'un raccord. Ah oui, pour moi, c'était la fin de ma carrière. Je voulais plus revenir le lendemain.
C'est abominable, un monstre pareil.
Carnet, j'ai dit après Prévert, moi, je veux plus jamais voir ce bonhomme. Et il m'a dit cette chose très jolie, il m'a dit. Margot, c'est un petit métier. C'est toujours les mêmes gens. Un jour, peut-être, tu travailleras avec Carnet. Alors tais-toi, parce qu'après, t'auras honte.
Et pendant la guerre, elle s'est planquée, mais il fallait aussi qu'elle gagne sa vie. Elle a fait des petits boulots et des trucs comme ça.
En 41, j'étais dans le Midi avec des amis qui m'avaient amené parce que j'avais pas de sous. Bon. Donc, là, pendant l'occupation... Je savais toujours rien faire, mais je savais un peu taper à la machine. Et j'ai tapé les textes d'un scénario qu'avait fait Prévert pour Tino Rossi, qui s'appelait, pour Pierre Billon, qui s'appelait Le soleil a toujours raison. Ça se passait à la Colombe d'Or, ce qui était quand même pas très désagréable, n'est-ce pas? Puis il y avait des gens qui montaient, qui racontaient des scénarios. Alors on se marrait, il venait des producteurs. Et il y avait le monde défilait voir Prévert. Et moi, je voyais le monde.
Sous un toit, viens vite chanter avec moi. Chantons une ritournelle, chantons. Que la vie est belle, chantons. Car la vie, c'est
de et après, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je suis arrivée, alors que je n'avais pas le droit de travailler parce que j'étais juive, à être secrétaire de production sur un film de Delannoy qui s'appelait L'assassin a peur la nuit. Quand on est secrétaire de production, on tape les feuilles de service, on répond au téléphone. Et finalement, c'est un poste qui n'est pas bien apprécié. Mais quand on le fait bien, c'est formidable parce qu'on est au courant de tout. Ça, alors j'aime bien ça. Alors après, Carnet est venu me voir et m'a demandé de travailler dans Les Enfants du Paradis. Et j'ai dit non. Il m'a dit, pourquoi? Je sais pas ce que vous criez tout le temps. Et il m'a dit, moi, je dis jamais rien. Et j'ai travaillé dans Les Enfants du Paradis. Naturellement, ça, je pense que c'est Jacques qui a demandé. Et Carnet m'a appris énormément de choses. Moi, je suis restée jusqu'à temps que les Allemands arrivent. Après, je me suis tirée.
Une fois que la zone libre a été envahie, heureusement, elle a été protégée. Là, mon père, là, ils ont croisé des soldats allemands. Et là, elle a failli se faire prendre. Et mon père, marié à une autre femme qui était goy, a sorti son livret de famille. Et il a dit, mais enfin, vous voyez bien, c'est ma femme. Donc, je vois pourquoi vous pensez qu'il y a un problème et qu'elle pourrait être juive. Et donc, elle a eu l'impression que ça lui a sauvé la vie. Et elle lui a été éternellement reconnaissante de ça.
Revenons quelques années en arrière. À quel moment votre mère rencontre Auguste Capelier, votre père ?
Elle l'a rencontré en 1936, il était communiste. Il s'est découvert très tard quand Margot l'a fait rentrer dans le cinéma et qu'il est devenu alors d'abord stagiaire de décoration et tout le monde a eu la grippe pendant le film. Il a fini chef décorateur. Et après, il a beaucoup travaillé avec Troner et avec d'autres, avec Daubonne, avec d'autres très grands décorateurs qui souvent faisaient les maquettes, mais lui, il s'occupait de tout le reste. Et il était chef décorateur. Il a fait aussi plusieurs films comme chef décorateur autonome. Et donc, il se voyait régulièrement. Mais lui, il continuait à s'occuper de son premier fils avec sa première femme. Il se voyait en cachette et... Pendant que Margot a été cachée dans la zone libre, il est venu plusieurs fois la voir, tout en restant, lui, à Paris.
Le père de mon enfant m'a sauvé la vie pendant l'occupation et nous avons fait un enfant pendant... un voyage surprise où il était décorateur et où je suis allée le voir parce que j'ai travaillé pendant le film. Et j'ai accouché... sur un film de Carnet qui s'appelle La fleur de l'âge et qui n'a jamais vu le jour parce que le producteur a été défaillant. Et où il y avait Anouk Aimé, Paul Maurice, Serge Reggiani. Pour les rôles principaux.
Moi, j'ai rencontré Margot en 1964.
Bernard Stora.
Sur le tournage du film inachevé d'Henri-Georges Clouzot, L'Enfer. Je pense que sur le tournage, Margot était officiellement régisseur adjoint. Et elle était en charge de la figuration. C'est là où j'ai vu pour la première fois ce personnage tout à fait hors du commun. Voilà, c'est elle qui s'occupait de recruter sur place les figurants. Et je crois que la première image vraiment que je garde de Margot, c'était Margot arrivant sur le marché de Murat, qui était une toute petite ville en Auvergne, suivie d'une troupe de paysans, femmes et hommes, plus vrais que nature, avec des costumes noirs. Voilà, elle était en tête, elle marchait avec un grand chapeau de paille. Très fière de sa petite troupe et la présentant à Clouzot, qui évidemment avait mille choses à penser, qui n'était pas spécialement intéressé par les figurants de Margot. Mais Margot savait s'accrocher et attirer l'attention sur elle quand elle jugeait que ça, c'était vraiment important et qu'elle avait bien travaillé. Et j'avais 30 ans de moins que Margot. Et Margot faisait partie de cette légende du cinéma français. Quelqu'un qui a travaillé avec Prévert, qui a travaillé avec Carnet, qui a travaillé avec Renoir. On se sent très privilégié de les rencontrer. C'était quelqu'un qu'on avait envie de faire parler de son expérience dans le Paris populaire des années 30, de son expérience avec le groupe Octobre, de la chorale populaire de Paris, quand elle était figurante dans Le crime de Monsieur Lange de Renoir. Tout ça, c'était pour quelqu'un qui était très amoureux du cinéma et de l'histoire sociale de la France et de cette France du Front populaire. C'était une histoire vivante, quoi. Elle était fascinante.
Était une héroïne. Il y a très peu de personnes comme ça dans le métier du cinéma qui passent, qui nous apprennent beaucoup de choses.
Costa Gavras.
C'est pour ça que je dis une héroïne. Parce que, vous savez, à l'époque, les assistants faisaient le casting. J'en étais un d'entre eux. Et c'est vrai que chaque fois qu'on avait un problème, on l'appelait Margot. Dis-donc, Margot, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle était d'une générosité extraordinaire. Elle disait, voilà, un tel, une telle, pour tel rôle, etc.
Avant Margot, C'était les assistants qui faisaient le casting. C'était le metteur en scène. Le metteur en scène avait des idées pour les rôles principaux. Lui, le producteur, bon. Vous savez, dans le cinéma français, il y avait des metteurs en scène qui travaillaient tout le temps avec les mêmes comédiens. Donc, c'était pas très difficile de faire des castings. Il y avait souvent les mêmes comédiens dans les seconds rôles. Parce qu'on prenait des comédiens, on appelait ça des comédiens sûrs. On savait qu'ils feraient pas perdre de temps parce qu'ils savaient leur texte, ils bredouillaient pas, et puis ils étaient évidents, et puis le public aimait beaucoup les retrouver. Donc c'était pas très compliqué, on n'avait pas cherché midi à 14h. Dans la majorité des films, si vous voyez d'ailleurs les films de cette époque, vous voyez toujours les mêmes têtes.
On dit que j'ai inventé, j'ai rien inventé du tout. Dans tous les pays anglo-saxons, il y a des castings. Il y avait des castings. Il n'y avait pas un film qui se faisait sans casting. En France, ça n'existait pas. Alors j'ai d'abord été secrétaire de production, après j'étais régisseur adjoint, après j'étais régisseur général. Après Mon curé chez les riches, c'était avec Diamant Berger, j'étais régisseur général. Et là, je faisais le petit casting. Ça veut dire, s'il y avait des petits rôles, je donnais des idées, mais naturellement, c'est toujours le metteur en scène qui choisit. En 54, là est arrivé quand même quelque chose de... Il est venu une émission, une série télévisée. Alors là, il y avait 39 films pour la télévision en anglais. Alors, excusez-moi du peu, tout ce qui respirait en anglais a travaillé dans le film. Je faisais venir des gens d'Angleterre et d'Italie. Personne ne savait que moi. Là, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et on travaillait dedans des acteurs qui sont de très grands acteurs. Mais ça permettait aux gens, à l'époque, de gagner un peu de sous.
Il y avait deux raisons qui faisaient que des films américains se tournaient en France. C'était parce que
Bernard Stora.
Les maisons de production américaines avaient des avoirs dans les pays européens et la France en particulier. Je rentre pas dans le détail, mais enfin, donc ils avaient de l'argent à dépenser en France. Et puis après, alors beaucoup dans les années à la fin des années 60, début des années 70, les films sont venus se tourner là parce que Richard Burton, Elizabeth Taylor et d'autres ne voulaient pas payer des impôts aux États-Unis. Voilà. Donc c'est il y a eu effectivement beaucoup de films américains qui se sont tournés en France.
Tony Curtis as the Circus Flyer. A man of incredible skill and daring, and faith in the hands.
Margot parlait anglais. Elle parlait anglais avec un accent français très très fort. Mais elle avait pas mal de vocabulaire. Et par exemple, elle était capable d'être très drôle en anglais aussi, ce qui prouve qu'elle avait une certaine maîtrise de la chose. En plus, elle les faisait marrer aussi à cause de son accent. Et donc, comme elle connaissait l'anglais, elle connaissait aussi les acteurs qui étaient susceptibles de s'exprimer en anglais dans des films américains. Et comme ça, elle a fait les premiers castings comme ça.
Spectacle, in fire, flesh. Trapèze, là j'ai fait du casting. Seulement, comme il n'y avait pas de titre officiel, alors on me mettait sur mes feuilles de paie, j'ai toujours régisseur général.
D'accord.
Comme j'étais la seule à l'époque à faire du casting en France, quand les étrangers venaient, ben, comme il n'y avait personne d'autre, ils me demandaient, ils disaient que j'étais la meilleure, j'étais toute seule, mais depuis que je suis. Toute seule, ils disent plus que je suis la meilleure.
Après ça, le cinéma, de toute façon, et maintenant, c'est très spécialisé. Donc, il y a quelqu'un qui cherche les décors, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans le. Bon. Donc, Margot, quand elle est arrivée, je ne sais pas très bien comment ça s'est passé, mais elle a inventé la fonction et le titre en France.
Alors revenons, Claude, à votre enfance. Est-ce que vous vous souvenez des lieux où vous avez vécu avec vos parents ?
Quand j'avais un an et deux ans, on était à Joinville-le-Pont, dans une villa qui avait été prêtée à mes parents. Et puis finalement, mes parents ont trouvé dans les Halles, au quatrième étage, un local qui avait servi de hangar à patates et qu'ils ont pu louer en loyer 48, mais il y avait un pas de porte très important. Et c'est Simone Signoret qui leur a prêté l'argent pour que, d'une part, ils payent le pas de porte, et d'autre part, pour qu'ils installent une salle de bain, un minimum de choses, parce que le truc était un hangar. Et ma mère qui jouait à la loterie nationale, comme ça s'appelait à ce moment-là, le loto de maintenant, quasiment trois fois par semaine, a gagné un très gros lot. Et du coup, elle a pu, alors qu'elle pensait qu'elle ne pourrait jamais y arriver, elle a remboursé Simone Signoret dans la foulée. Et Margot y habitait jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à ce qu'elle aille en EHPAD les trois dernières années de sa vie.
Simone adorait Margot. Elle avait cet attachement des personnes, Margot étant juive, elle avait cet attachement-là, Simone, très très fort. Elle voulait savoir d'où elle sortait, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Comment elle avait vécu sa profession en France, etc. Après, je crois qu'ils s'étaient rencontrés aussi, à l'époque de Margot, était avec Prévert, à la Côte d'Azur et à Paris. Je crois que c'est là où ils s'étaient rencontrés. Et chaque fois que on a parlé avec elle de cinéma, ou je parlais même de films, j'ai fait deux choses avec Simone, et il me dit, est-ce que tu as vu Margot pour tel personnage? Voilà, c'était presque automatique.
Est-ce que vous, il y a d'autres souvenirs qui vous reviennent?
Ben, c'est son image qui me revient dans les studios, que ce soit de Billancourt et de Boulogne, mais surtout de Billancourt, parce qu'il y avait des grands couloirs. Je l'avais un peu penché, parce qu'elle était assez âgée à l'époque, évidemment. Un peu penché, elle avançait, c'est comme si elle réfléchissait. Et quand on l'a rencontrait, il fallait presque l'arrêter pour lui dire bonjour, Margot, comment ça va? Sinon, elle pensait à autre chose. Elle était ailleurs. Elle était avec ses acteurs, je crois. Et on parlait, on prenait un verre, et elle m'a raconté ce qu'elle faisait.
À Boulogne, dans la partie qu'on appelait les anciens studios, rue de Sillé, elle travaillait dans une espèce de cage vitrée qui était dans le hall du studio, juste en face du restaurant. Donc elle était vraiment au cœur des événements. Et c'est là qu'elle avait ses fichiers, qu'elle avait toutes les affaires qu'elle trimballait dans ses nombreux sacs. Elle était comme la vigie au studio, vous voyez. Donc on ne pouvait pas l'éviter. Et elle happait au passage les gens avec qui qui pouvaient lui être utiles dans le travail qu'elle faisait. À ce moment-là, les comédiens qui passaient, tous les techniciens, elle connaissait très bien tous les décorateurs, les ouvriers des équipes de décoration, parce que Capelier avait été un décorateur ou un assistant des très grands décorateurs. Elle était à l'aise avec tout le monde. Il y avait un esprit d'équipe qui était quand même assez fort, qui était favorisé par le studio, puisque dans un studio, il y avait deux, trois équipes qui travaillaient simultanément, donc on se croisait, on se rencontrait, c'était un vrai lieu de travail. C'était la vie du studio. C'est quelque chose qui n'existe plus maintenant, mais qui était très fort à cette époque.
Alors moi, j'ai rencontré Margot par mon père, donc Gérard Houry, qui adorait Margot et qui a commencé à travailler avec elle, je pense, comme comédien, à l'époque où il faisait ce métier-là.
Daniel Thompson.
Fin 50, années 60. Puis, évidemment, ça s'est transformé en une autre relation professionnelle quand il est devenu metteur en scène. Et je crois qu'il a très, très vite eu affaire à elle et il avait une confiance énorme en elle et il adorait. Je crois que tout ce que représentait Margot, c'était quelque chose qui le touchait profondément. Il y avait une sorte de cousinage avec sa propre mère, qui était aussi toute petite et qui était de la même génération et peut-être un petit peu plus âgée que Margot, mais pas tant que ça. Puis surtout, il considérait Margot comme une grande, grande professionnelle et pouvait pas imaginer, je pense pas qu'il ait fait un film sans elle.
La préparation de Rappi Jacob s'est faite dans des conditions un peu particulières et très agréables d'ailleurs. C'est-à-dire que pendant, je crois qu'on a préparé le film pendant 6 mois quand même, dans des bureaux, boulevard Malesherbes, et Gérard était là en permanence. Et pendant toute la journée, il travaillait à son scénario, à écrire, à réécrire, à inventer des gags. Donc il était enfermé avec Daniel Thompson, sa fille, co-scénariste, avec Albert Jurgenson, qui était son monteur, en qui il avait très confiance, avec Jacques Bénard, qui faisait la deuxième équipe, avec qui il avait déjà travaillé. Et tout ce petit groupe était là. Dès qu'ils avaient trouvé une idée, ils se précipitaient dans notre bureau, des assistants, ils rassemblaient tout le monde pour dire « Écoutez ça ». Alors ils lisaient, ils disaient « Est-ce que ça vous fait rire ?» Enfin, en tout cas, ils voyaient à notre réaction si ça nous faisait rire ou si on avait l'air relativement sceptique. Et suivant le test, il repartait dans le bureau, etc. Bon, Margot était associée à ça à partir d'un certain moment. Et le casting était quand même très, très important, très compliqué. Et elle a participé de très près à la préparation de ce film.
Alors, je crois que déjà, l'idée de Popek, c'était la sienne. Et ça, ça a été évidemment... Parce que bon, de Funès, n'en parlons pas. Bon, ce qui a été d'ailleurs très compliqué à l'époque, c'était le personnage de Slimane. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais il n'y avait pas un acteur maghrébin sur la place de Paris qui pouvait prétendre à ce rôle. Alors ça a été très très compliqué parce qu'elle a cherché et elle connaissait tous les comédiens. Mais Dieu merci, les temps ont changé, mais c'était quand même insensé de pas trouver quelqu'un d'authentique par rapport à ce personnage et de prendre finalement proposition de Margot, Claude Giraud, acteur de la Comédie Française, qu'on a un petit peu transformé physiquement en lui teignant les cheveux en brun, très très brun, et c'était totalement crédible et ça a été une idée formidable, mais qui n'est pas venue tout de suite parce qu'il a fallu vraiment chercher.
Rabbi Jacob, elle va danser.
Et puis il y a eu aussi, ça je m'en souviens très bien, la grosse difficulté de trouver Tzip, qui est donc la cousine de Rabbi Jacob. On voulait une actrice qui parle yiddish, difficile à trouver aussi. Et c'est Margot qui est allée dénicher cette extraordinaire comédienne américaine, donc, qui s'appelle...
Jeannette Brandt.
Jeannette Brandt, exactement, qui était une des actrices du théâtre yiddish à New York, qui ne parlait pas le français, mais qui parlait yiddish, et donc qui a pris le rôle littéralement phonétique, mais qui avait cette qualité magnifique de faire vraiment cette mama juive avec son renard argenté et son accent, etc. C'était formidable. Et c'est Margot qui a trouvé cette femme. Je ne sais pas comment elle a eu cette idée d'aller farfouiller dans les cheptels des comédiens new-yorkais qui parlent yiddish, parce que à Paris, c'est très difficile à trouver. Mais ça a été un moment très, très important.
Et elle a eu l'idée d'Henri Guibet.
Elle a eu l'idée d'Henri Guibet.
Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif.
Ah si.
Mais pas de notre famille.
Si.
Et alors, ça, c'était une idée inattendue, puisque Henri Guibet avait donc fait du café-théâtre, et elle en a parlé à mon père, et donc il ne le connaissait pas. Et c'était évidemment un rôle très, très important, le rôle de Salomon.
Courant. Salomon.
Pour Rabbi Jacob, depuis le départ, il y avait l'idée qu'il y aurait une séquence musicale, mais au départ, c'était du violon. Il devait jouer du violon. Je me souviens plus très bien d'ailleurs pourquoi on est passé du violon à la danse.
Grâce à Margot.
De toute façon, elle savait tout, qu'elle allait partout et qu'elle avait cette curiosité d'aller voir les spectacles aussi bien à Paris, en banlieue, dans les petits théâtres, dans les grands théâtres. Enfin, c'était sa vie. Et donc, elle a découvert, en effet, Ilan. Elle avait ce petit groupe de danseurs et de musique Klezmer. Et elle a emmené mon père voir ce groupe. Et l'idée de cette fameuse danse de Rabbi Jacob est née de cette rencontre.
C'est vrai qu'un soir, on s'est retrouvés, je crois que c'était dans le Marais, dans une espèce de studio où répétait cette troupe de très jeunes gens, hein. Et qui nous ont montré leur répertoire de danse juive. Enfin. Et ça nous a beaucoup plu. Et puis après, on n'en a plus entendu parler. Ça s'est passé entièrement entre De Funès et Ilan, le chorégraphe. On ne s'est pas du tout occupé de ça. On n'est jamais, ni Uri, ni moi, ni personne. On est allé voir leurs répétitions et voir ce qu'ils étaient en train de faire.
C'est-à-dire que la scène de la danse, vous l'avez découverte pendant le tournage.
La scène de la danse, qui est devenue tellement mythique, c'est un tour de magie. On a placé les caméras. Gérard a dit moteur, il n'y a pas eu de répétition. Et il y a la séquence que vous voyez. C'était totalement... Mais personne, absolument personne ne savait ce que ça allait être.
Enfin, tout ça a été une opération de grande envergure pour ce moment magique qui se passe non pas, enfin, qui s'est censé se passer rue des Rosiers, mais qui se passe évidemment dans un lieu de tournage en banlieue et où on avait reconstitué la rue des Rosiers. C'est un moment historique maintenant dans l'histoire du cinéma.
Pour ce film dont le budget dépasse le milliard, Gérard Houry a pu réunir deux équipes, un directeur de la photographie et un ingénieur du son parmi les plus réputés, de nombreux techniciens que le cinéma français n'emploie pas d'habitude, comme cette personne chargée du choix des acteurs, de ce qu'on appelle en Amérique le casting.
C'est un métier qui n'existe pratiquement pas en France. Pour moi personnellement, je crois que c'est présenter aux metteurs en scène des comédiens qu'ils ne prennent jamais, ou en tout cas rarement.
Vous en avez présenté beaucoup pour ce film,
Jean-Louis. Oh là 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 là, je crois que j'ai fait tout Paris. Et même l'étranger.
Ben, ma première rencontre avec Margot n'était pas très sympathique. Elle n'était pas très sympathique avec moi.
Quand vous vous rencontrez en 75, elle avait 65 ans. Dominique Besnéard.
Pourquoi j'avais été la voir? J'avais été appelé par Jacques Doyon pour faire le casting du sac de billes où on devait chercher deux jeunes garçons juifs. Et donc, Doyon m'avait imposé parce qu'il voulait trouver deux inconnus. Donc, il m'a engagé, il m'a présenté Claude Berry. Et Claude Berry a tout de suite été très sympathique avec moi. Et surtout Pierre Grunstein, qui était le directeur de production que j'ai toujours adoré et qui a toujours été fidèle à moi-même. Et donc il me dit, ça serait bien que vous alliez dans tous les catéchismes juifs, les Talmuds. C'est Pierre Grunstein qui me disait ça, puis il me dit, puis allez voir peut-être Margot Capelier, parce que elle a quand même, c'est la papesse du casting français. On disait pas vraiment casting, on disait distribution. Elle est chargée des distributions, donc ça serait bien que vous alliez la voir. Donc elle était au studio de Boulogne-Billancourt. En fait, quand c'est peut-être la première fois que je rentrais dans un studio de cinéma. Et je vais à un rendez-vous avec elle, à ce que Pierre avait appelé, plus Pierre Grunstein que Berry. Et tout d'un coup, alors je lui dis, voilà, je cherche le moyen de trouver des enfants. Peut-être que vous en avez rencontré, peut-être dans votre fichier. Elle me dit, mais vous avez du toupé, vous? Vous n'avez rien fait, vous venez me demander mes adresses, et mais non, mais jamais, monsieur. Elle a été odieuse, et donc, j'ai dit, tant pis, voilà. Donc, je suis sorti de là, j'ai dit, mais elle a pas compris pourquoi elle faisait pas le casting. En même temps, elle avait peut-être pas tort, c'était peut-être pas très adroit d'envoyer quelqu'un, mais peut-être c'était aussi le fait que j'étais naïf et que je croyais que tout le monde voulait du bien à tout le monde. Je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et donc pendant longtemps, elle m'a regardé d'un sale œil, mais je faisais quelque chose quand même qu'elle ne savait pas faire. C'est le casting sauvage. Il y avait aussi une femme qui s'appelait Catherine Vernoux. C'était carrément des grandes tragédiennes du casting. C'était les sociétaires honoraires du casting. Donc d'avoir un mec qui vient comme ça. Mais j'avais 20 ans, tout d'un coup, je voulais refaire le monde.
Arrivé Dominique Besnéard.
Bernard Stora.
Elle appelait Attila. Parce qu'il raflait tous les films qui n'étaient pas les films traditionnels. Pas traditionnels dans un sens négatif, mais disons du grand cinéma français et international, auquel participait Margot.
Elle m'appelait Attila. Attila, c'est le type qui, quand il passe, il rase tout, et il est un peu sanguinaire. Elle m'appelait Attila. C'est Attila. Donc voilà, mais en même temps, on a été un couple une forme de couple du spectacle.
Comment la profession vous appelait, vous deux?
C'est Margot qui a trouvé. Elle nous appelait Harold et Maude. Et les gens nous voyaient ensemble. Et quelque part, la preuve, c'est que les gens imaginaient que c'est elle qui m'avait permis de commencer. Donc il y avait plein de... C'était pas non plus des légendes, mais les gens racontaient, faisaient une histoire. C'est parce que elle était tellement romanesque que voilà. Et puis elle, avec son accent et moi, mon cheveu sur la langue, c'était quand même assez drôle.
Sa complicité avec Dominique était tellement extraordinaire. Où il s'amusait à faire jaser tout le Festival de Cannes en se prenant une chambre d'hôtel ensemble.
Florence Dugovson.
Oui. Non, ils se sont beaucoup amusés, tous les deux. Donc, oui, ils se sont un peu chambrés et tirés dans les pattes, mais je pense que c'était un jeu entre eux.
Et en même temps, après, donc, je l'ai rencontrée au théâtre, parce que c'est quand même une femme, c'est bien de parler de moi, mais c'est quand même une femme que j'ai vue toute ma vie au théâtre.
Je pensais que c'était beau de dire des mères. Moi, quand j'allais au théâtre, je pleurais, quoi. Je sanglotais au dernier rang de la Comédie française, en haut, dans les cintres, et je me suis toujours dit, quand j'aurai de l'argent, j'irai au premier rang. Et c'est la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est d'être au premier rang.
Au premier rang, au deuxième rang, avec ses sacs, et tout d'un coup, donc moi aussi, j'allais au théâtre ou au concours du conservatoire, parce qu'en fin de compte, après, je suis allé beaucoup au concours du conservatoire, et elle était là, et là, certainement que je l'ai revue, il y a quand même tellement longtemps, mais elle était là, elle était au premier rang. Alors, les gens disaient que, de temps en temps, elle dormait, mais moi aussi, j'ai dormi à côté d'elle, dans des pièces qui duraient 5 heures, et en même temps, elle dormait d'un œil, parce qu'elle était capable, je la coinçais, dire, mais ce passage-là, t'en penses quoi? Et elle vous disait le passage.
Il fallait aller au théâtre, au cinéma,
Costa Gavras,
au cours d'acteur, et naturellement au conservatoire, en fin d'année, quand il y avait les concours, on voyait tous les jeunes acteurs, etc. Et chaque fois, Margot était là. Et parfois, je m'asseyais à côté d'elle, et elle le regardait comme ça, avec, elle me disait, tu vois celui-là? Très, très bien. Tu vois celle-là? Formidable, etc. Et elle avait un œil formidable. Et puis, il la voyait parfois, quand les acteurs étaient un peu comme ça, elle faisait un maugrain un tout petit peu. Elle n'était pas contente, comme si on lui avait fait quelque chose de personnel contre elle. Voilà. Comme si on avait, c'était ça, parce qu'elle aimait les acteurs. Elle aimait, elle les connaissait, les acteurs étaient ravis de les rencontrer dans les couloirs du studio où on pouvait les rencontrer. Et on sentait vraiment une sorte d'attachement qui allait au-delà de la profession.
Parce qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas profondément les comédiens, c'est-à-dire à la fois leur fragilité, leur ténacité, leur immense talent. Donc elle était quand même tous les soirs au théâtre. Après ça, elle rentrait chez elle avec ses sacs, ses énormes sacs, des photos, elle grimpait ses étages. Et oui, c'était très touchant parce que c'était très vrai.
C'est la casting qui se déplaçait le plus.
Florence Dugovson.
Sûrement parce qu'elle avait plus de vie de famille à son grand âge, donc ça ne lui volait le temps sur rien, et puis qu'elle était tout à fait passionnée. Donc je crois pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui aient pu se plaindre qu'elle n'avait pas été les voir jouer, parce que s'il y en avait une qui se déplaçait, c'était bien elle. Et elle avait un grand respect du travail, une grande admiration des acteurs à assurer de jouer tous les soirs, etc. Elle trouvait que c'était un métier dangereux, risqué, et elle avait une énorme admiration, sûrement parce qu'elle avait essayé de s'y frotter elle-même. Donc elle avait une énorme conscience du travail que ça représentait, et je l'ai toujours vue très gentille et rester élégante avec les gens, sans leur faire croire qu'elle avait adoré pour autant, quand elle aimait pas du tout. Mais je l'ai jamais vue blessante sur le travail. On essaie, oui, à dire non, mais ça va pas, on recommence. Mais après une pièce, je l'ai jamais vue blessante. Elle a toujours été très respectueuse du travail des gens.
À quelle période et dans quelles circonstances vous aviez rencontré Margot ?
Alors, j'ai rencontré Margot dans les années 90. J'avais à peu près 25 ans. Et elle était déjà bien avancée dans sa carrière. Elle avait plus de 80 ans, je crois, à ce moment-là. Et elle était absolument débordée de films. Elle était d'une grande fidélité et les réalisateurs lui étaient extrêmement fidèles. Les metteurs en scène tels que Kieslowski, Polanski, Chéreau ne juraient que par elle et ne voulaient pas travailler avec d'autres casting directeurs qu'elle. Et elle ne pouvait leur dire non, donc elle acceptait tout en même temps. Et elle avait besoin, évidemment, de pouvoir déléguer un petit peu de travail pour pouvoir faire face à tout ce sur quoi elle s'engageait. Donc moi, j'étais dans un bureau d'une prod et elle dans l'autre. Et donc, elle m'appelait et elle me disait « Dugovson, ce soir, rendez-vous là, telle heure. » Et voilà, j'avais pas trop mon mot à dire. On y allait. Des fois, j'y allais un peu en traînant la patte. Mais j'ai découvert plein de merveilles avec elle, grâce à elle, et après, bien sûr, aller voir les acteurs, leur dire ce qu'elle pensait ou pas. Elle avait un grand art de la politesse. Moi, elle me disait, ouais, j'aime bien avec toi, on peut parler japonais. Ce qui voulait dire, on arrive à se comprendre au-delà des mots. Ce qui voulait tout dire. Elle avait toujours ses sacs avec tous ses fichiers, puisque à l'époque, pas tout était numérisé. Donc, elle avait toujours les CV, les photos, les dossiers, avec des sacs qui pesaient 5 tonnes, donc j'allais quand même pas la laisser rentrer chez elle, apporter ses sacs. Donc elle, elle faisait des pauses à chaque palier, et des fois plusieurs fois par étage. Et elle me disait, m'attends pas, monte, vas-y, prends les clés, ramène tout ça chez moi. Bien sûr, je l'attendais, mais oui, bien sûr, il fallait la raccompagner. C'était quand même la moindre des choses, parce que c'était déjà assez extraordinaire de la voir autant se déplacer, autant sortir à son âge.
Je vais dans les cours, mais pas assez. Il faudrait, vous voyez, il faudrait, je crois, maintenant, si on veut le faire bien,
ouais.
Il faudrait que, il y ait ce qu'ils appellent en Amérique un talent scout, qu'ils ne fassent que ça, qu'aller voir les gens, aller voir les gens.
Lorsque vous allez dans un cours, vous pouvez deviner le talent d'un comédien.
Je ne devine pas, je me dis, celui-là me plaît bien.
Ouais.
Bon.
Et vous obéissez simplement.
Bah, vous voulez que je fasse, comment vous voulez savoir. Et comment vous pouvez deviner comment les gens doués vont évoluer? Ça dépend des rencontres.
Assez tôt, je suis allée au conservatoire de Versailles. Je faisais mes études dans un lycée proche de Paris. Et,
Isabelle Huppert.
J'ai très vite abordé le répertoire classique. Et puis, il y avait un concours à la fin de... un concours de fin d'année que j'ai passé, au cours duquel j'ai obtenu un premier prix ou deux premiers prix. Je crois que c'était avec Un caprice de Musset et Boubouroche de Courteline. J'étais un tout petit peu jeune pour jouer Boubouroche, mais enfin, c'était pas très grave. Et dans la salle se trouvait Margot Capelier. Margot est venue vers moi et m'a encouragée. Et m'a dit que je devrais continuer. Et c'est des signes très importants dans un parcours comme ça d'adolescente d'avoir un encouragement de quelqu'un comme elle, bien sûr.
On découvre jamais personne, mademoiselle. Ça, faut le savoir. Les gens qui, sauf les enfants. On découvre pas les enfants, on les trouve, parce qu'ils existent. On découvre jamais personne, parce que quand on commence de parler d'un acteur, ça veut dire que beaucoup de gens l'ont vu. Pour le moment, peut-être qu'il est pas prêt aussi. Il y a une question tout à fait délicate. C'est que les gens, quand ils commencent, ils ont des choses à dire, des choses à faire, ils sont pas toujours adroits. Et vous vous dites, ah, celui-là, il est peut-être pas prêt, mais quand il va être prêt, ou celle-là, ça va être formidable.
Quand on était convoqué chez Margot Capelier, on arrivait probablement avec la peur au ventre.
Daniel Thompson.
Parce qu'on avait envie de la séduire et on savait que c'était le passeport qui vous ouvrait la possibilité de rencontrer les metteurs en scène qu'on rêvait de rencontrer. Donc, je pense qu'elle avait à la fois quelque chose de très rassurant parce qu'elle avait un look très rassurant de cette petite dame avec cette voix comme ça tellement parigote d'accent parigot qui n'existe plus aujourd'hui, qui était vraiment l'accent de Gabin, de toute cette génération de gens. Et ça, c'était très 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 charmant et très rassurant. Et en même temps, elle avait un franc-parler qui n'était pas rassurant du tout parce que elle disait les choses d'une manière très cash aux comédiens et elle leur ouvrait des portes tout en leur les mettant bien à la place qu'ils devaient avoir. Donc et puis elle avait ce rôle du premier rendez-vous.
Ma première rencontre dans ma mémoire, c'est d'être dans son antre, dans son lieu, avec les tableaux qu'il y avait sur les murs, que son mari avait fait de différents décors de cinéma, de photos d'elle, avec Gene Kelly. Je me souviens de ses bagues à ses doigts, je me souviens de la précision avec laquelle elle écrivait mon nom, ce que j'avais fait, d'où je venais. Alors j'avais 18 ans, hein. Toutes les renseignements qu'elle pouvait avoir sur moi, elle les prenait vraiment avec sérieux. Et j'étais étonnée par sa chaleur, par son attention et sa bienveillance. Et je suis sortie de là, je me souviens qu'elle habitait au 4e, si mes souvenirs sont bons. Et je me suis dit, mais comment cette petite femme peut monter ces 4 étages? Elle était déjà assez âgée à l'époque. Et après, bon, j'ai rencontré évidemment dans d'autres circonstances. Mais pour moi, ce premier rendez-vous chez elle, ça a été un peu le fondement de, certainement de moi, quelque part, jeune actrice, mais de ma rencontre avec elle. Mon premier film en anglais pour l'insoutenable légèreté de l'être, c'était grâce à elle. Et c'était pas gagné d'avance du tout. Le metteur en scène Philippe Hoffman, quand je l'avais rencontré, avait eu des doutes par rapport à moi parce que je posais beaucoup de questions sur le rôle, sur le film. Et en posant des questions, je sais pas, c'est comme si il trouvait aussi que mon anglais n'était pas très bon. Et en fait, c'est Margot Capelier qui a convaincu Philippe Hoffman pendant mon absence que j'étais la meilleure actrice pour ce rôle-là. Et avec l'insistance et la foi de Margot, finalement, ben, ils ont craqué et j'ai joué dans le film L'Insoutenable. Voilà.
C'est le début de votre carrière internationale.
Ah oui, franchement, Margot a été vraiment celle qui a appuyé sur l'accélérateur pour que ça se passe. Ouais.
Elle a eu des passions pour des réalisateurs, pour des acteurs.
Claude Capelier.
Ah ouais, alors là, absolument. Elle adorait aussi Simone Signoret. Elle a adoré Juliette Binoche. Évidemment, tout le monde peut citer Lauzet, qu'elle adorait absolument. Et évidemment, Chéreau.
Comme Patrice était quelqu'un de très impressionnant, il n'y avait pas tellement de personnes qui osait lui dire vraiment tout ce qu'il pensait.
Florence Digofson.
Et je crois que Margot lui était très précieuse pour ça. J'ai assisté plusieurs fois qu'on soit nous en séance de travail dans des prods et où il l'appelait et il lui disait « Là, vraiment, j'ai besoin que tu viennes au filage. » Il lui envoyait un taxi. Elle sautait dedans. Elle allait voir le filage. Et elle revenait, elle me disait bah moi je lui dis hein, peut-être que c'est parce que j'ai pas fait d'études, mais j'ai rien compris. Donc elle osait lui dire des choses que je crois pas beaucoup de gens lui disaient, et lui rebossait, et il la faisait revenir, et je crois que son avis comptait énormément. Et je pense que elle avait conscience, vu comment il la faisait déplacer, qu'il allait tenir compte de ce qu'elle disait. Et elle mettait les gants, mais elle lui disait ce qu'elle pensait des spectacles.
Elle avait une connaissance absolument encyclopédique des comédiens. Je pense qu'il n'y a pas un acteur français qui ne l'a pas rencontré au moins une fois.
Patrice Chéreau.
Je sais qu'elle m'a donné un jour la fiche d'Isabelle Adjani qu'elle avait croisée quand elle avait 14 ans. Et où il y avait marqué en grand « intéressante ». Voilà. Donc elle n'ignorait rien d'aucun acteur français, d'aucun acteur, d'aucune actrice. Et je lui dois mais énormément de choses. Tout le casting français de la Reine Margot, évidemment, ceux qui m'aiment. Elle convoquait les gens, elle les voyait avant moi, elle leur parlait, elle faisait des photos, elle essayait de comprendre ce que je cherchais. Et quand on n'arrivait toujours pas à trouver, elle me redonnait encore d'autres noms, d'autres informations, d'autres gens que je ne pouvais pas connaître, moi, bien entendu, puisque je pouvais pas être partout comme elle. Elle était très très à l'écoute, en fait, du metteur en scène, du réalisateur.
Margot, comme Dominique d'ailleurs, Besnard finalement a à peu près le même œil et la même façon de travailler. C'est-à-dire que il voit quelquefois, et c'est à ça que sert un casting. On s'interdit des choses, surtout quand on est metteur en scène et qu'on écrit ses propres scénarios ou qu'on y travaille de près. Donc, depuis le tout début, on se fait une idée de la personne et on cherche à faire coller, à se dire quand on rencontre un comédien, est-ce qu'il est comme je l'imaginais. Et un casting, ça sert à décaler le regard. À décaler le regard. Ça veut dire tout à coup à vous montrer que oui, on peut imaginer évidemment le rôle comme ça, mais si on choisit quelqu'un de très 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 différent, ça peut marcher aussi. Alors ça, on met longtemps. Et il faut que le casting soit suffisamment malin pour quelquefois vous forcer un peu la main, décaler le point de vue. Mais quand c'est bien fait, Margot le faisait très très bien, c'est vraiment très productif.
Ah oui, ça m'est arrivé souvent. Quand ça marche, mais pour ça, il faut une patience de morpion. Je l'ai, ça. Mais ça m'est arrivé très souvent. Si je dis, si il s'était pas écrit dans le scénario, s'il n'était pas décrit de cette façon, ce serait peut-être possible d'envisager Monsieur Schtroumpf. Je répète ça comme si je disais la messe tous les matins. Et puis un jour, le metteur en scène vous dit, amenez-moi Monsieur Schtroumpf. Il pense que c'est lui qui a eu l'idée, c'est bien comme ça. Ça fait le cheminement dans sa tête.
Elle était un peu la reine du contre-emploi. Et je crois que c'est ce que les metteurs en scène appréciaient énormément. C'est qu'elle avait toujours des idées pas du tout attendues et qui allaient donner différentes épaisseurs au personnage. C'est là que le casting devient un art en soi, parce que dans la façon dont elle fait des propositions, elle amène une couleur à un film qui va bien au-delà de juste trouver quelqu'un capable de bien jouer le rôle.
Mais justement, aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il faut plus faire semblant d'être qui on n'est pas. Et enfin, on est dans une autre vision des choses. Et moi, je trouve que justement, ce qui est formidable dans le métier d'acteur, c'est de jouer quelqu'un de gay si on ne l'est pas, de jouer quelqu'un de trans si on ne l'est pas, de justement pour quelqu'un de trans, de jouer quelqu'un qui n'est pas trans. C'est ça que je trouve magnifique dans ce métier. Et donc, je suis un petit peu admiratif de ce genre de décision.
Une journée de travail, c'était faire des fiches sur les personnages, contacter les agents, faire des listes d'acteurs pour chacun des rôles, et après contacter les agents pour vérifier leur prix, leur disponibilité, prendre des rendez-vous, organiser les journées où on allait faire les essais. Mais ce qui était passionnant, c'était le moment où elle faisait les listes, parce qu'elle avait toujours des listes qui donnaient des couleurs tellement, des propositions de couleurs tellement différentes, comme une espèce de mosaïque possible qui allait faire comme un puzzle pour le film, et c'était tout un jeu d'équilibrage entre tous les différents personnages.
Est-ce que vous vous souvenez du bureau de Margot à Boulogne, de son fichier d'acteur ?
C'était le bordel. C'était le bordel. Je ne sais même pas comment elle pouvait s'y retrouver. Mais Margot, elle avait une grande mémoire, c'est ce qu'on oublie de dire, une grande mémoire sur les noms. Je veux dire, à l'âge que j'ai maintenant, j'ai plus des problèmes de mémoire à me souvenir des noms d'acteurs. Elle se souvenait de tout. Elle avait peut-être mon âge maintenant quand je l'ai rencontrée. Donc, parce qu'en même temps aussi, Margot, on ne savait pas quel âge elle avait. Elle a toujours eu la même tête. J'appelais Golda Meir. C'est-à-dire qu'elle avait toujours la même tête. À 40 ans, elle avait la tête de 60 ans. Donc c'était sa force, ça. Et ça, c'est un truc, quand vous voyez les photos, c'est incroyable, ça.
Margot avait un esprit, je trouvais, dans mon quotidien avec elle, un regard sur la vie, beaucoup plus jeune que certains amis de mon âge. Et j'ai trouvé Margot incroyablement jeune et incroyablement moderne dans la façon dont elle recevait l'art et la vie. Et ça, je crois que c'est la chose la plus précieuse qu'elle m'ait apportée. Et je continue, grâce à elle, à avoir des amis absolument de tous les âges, en m'en fichant complètement de leur âge physique.
On a eu la chance de côtoyer des gens de grande qualité. On a l'impression qu'on n'a pas su les aimer suffisamment, qu'on n'a pas pris le temps de les écouter, qu'on a été quelquefois injuste ou agacé. Alors on se dit, après, rétrospectivement, on se dit, mais pourquoi on n'a pas profité de parler avec elle, de l'écouter, bon.
J'avais une admiration inouïe pour Margot, de par son intelligence, sa spontanéité, de son bagou. J'ai l'impression qu'elle sentait, elle savait ce que c'était, la difficulté d'être acteur, d'être artiste, d'être Voilà, de s'exposer dans toutes sortes de zones différentes, aussi bien fragiles que fortes, que voilà. Et ça, elle savait l'apprécier, et elle avait une façon de voir et de capter la personnalité de quelqu'un. C'était quelqu'un d'entière, de vrai. Quand quelque chose l'emmerdait, elle le disait. Et ça, cette sincérité-là, elle est nécessaire parce que on peut très vite monter dans les tours dans ce métier-là. Et à la fois, on a besoin d'avoir une main tendue, d'avoir quelqu'un qui dit sincèrement ce qu'il a ressenti après qu'on ait joué, parce que c'est un métier presque très abstrait finalement, hein, parce qu'on a un instrument de musique, hein, on est un instrument, ça passe à travers nous, mais après c'est très, ça part, et c'est vrai qu'il y a des films, le théâtre, ça ne reste que dans les mémoires, donc c'est quand on a des personnes comme ça qui savent vous parler et qui ont reçu, c'est vraiment des trésors pour nous. Ça nous tient comme dans une ancre au fond de la mer. Il y a quelque chose qui vous ancre, et on a besoin d'être ancré comme acteur. Ouais.
Bah, ça ne peut pas être autre chose qu'une passion, parce que le cinéma, quand il est bien fait, c'est magique. Et la magie, quand elle ne vous fait pas peur, quand ce n'est pas atroce, c'est formidable. C'est magique. On ne peut pas expliquer pourquoi c'est beau, pourquoi on a vu des films qu'on n'oubliera jamais. Pourquoi on a vu un comédien qu'on n'oubliera jamais. Parce que peut-être une fois, deux fois, trois fois, il a fait quelque chose qui était tellement au-dessus de quelque chose. C'est un rêve. C'est comme un rêve. Pour moi, c'est un rêve. Comédien, c'est une magie. Et moi, j'aime la magie.
Avec Dominique Besnéard, acteur et producteur, ancien directeur de casting et agent artistique. Juliette Binoche, comédienne. Claude Capellier, philosophe, auteur et éditeur, fils de Margot Capellier. Florence Dugofson, professeure de yoga, ancienne directrice de casting. Costa Gavras, réalisateur et directeur de la Cinémathèque française. Bernard Stora, réalisateur et écrivain. Danielle Thompson, scénariste et réalisatrice. Avec les contributions de Raymond Bussière, Isabelle Huppert, Patrice Chéreau, Archive INA, Marie-Sophie Guillet de la Brosse, prise de son, Élise Leu, Christophe Michoud, Andreas Jaffre, Stéphane Beaufils, mixage Bruno Mourlan, coordination Anaïs Quien, attachée de production Sylvia Favre. Margot Capellier, la reine du casting. Un documentaire de Corinne Baccara, réalisé par Yaël Mandelbaum.